Et ce matin, on a un autre os qui nous attend. Un os, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un os à ronger. Ce sont les parties, quand on tombe dessus, ça reste coincé au travers de la gorge. Et honnêtement, on se dit, mais mince, on pourrait presque remettre en question, en cause, l'inhérence de la Bible, ou le fait qu'elle est sans erreur, ou bien douter de Dieu, du fait qu'il a maîtrisé les écrivains. Et donc, ce matin, on va aborder une question épineuse, c'est celle du pardon. Est-ce que je suis pardonné si je refuse de pardonner ? Et je vais commencer par une illustration. Alors, l'image va arriver, mais ce sera après mon illustration. En fait, est-ce que vous vous souvenez de Charlie Kirk ? Ça vous dit quelque chose, Charlie Kirk? C'est un homme qui a été assassiné au cours d'une conférence aux États-Unis il y a quelques mois. Un acte dramatique. Cet homme était marié, avait deux enfants. Il était très jeune, moins de 40 ans. Et donc, il s'est passé 11 jours entre le moment où il a été assassiné et où il y a eu un hommage qui lui a été rendu. Et au cours de cet hommage, on a Erika, donc son épouse, qui est venue au micro. Et alors, elle était en larmes, mais elle a dit une phrase qui a bouleversé le monde entier. Et vous pouvez bien sûr retrouver ces petites séquences de vidéos, même toute la cérémonie, sur Internet. Là, je vous cite juste une petite phrase, mais c'est bouleversant. Donc, l'homme a été arrêté, je crois même qu'il est mort, je ne me souviens plus, je crois qu'il a été abattu. Tout de suite après avoir assassiné son mari. Non, il n'a pas été assassiné, pas du tout, ça n'aurait pas de sens ce que je dis là. Alors, donc, cet homme, voilà ses paroles à elle. Elle dit, cet homme, ce jeune homme, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que c'est ce que le Christ a fait et c'est ce que Charlie, mon mari, aurait fait. Et elle ajoute, la réponse à la haine, ce n'est pas la haine. 11 jours après avoir perdu son mari. Alors, ce genre de pardon, mes amis, c'est bouleversant. Hein, les 65 000 personnes qui étaient présentes dans le public ce jour-là se sont mises à pleurer, littéralement. Et moi-même, quand j'ai regardé ça, j'ai vu en direct, c'est bouleversant. Mais en même temps, ça nous met mal à l'aise parce que ça nous renvoie à notre propre capacité ou incapacité à pardonner. Intérieurement, on se dit, et si ça m'arrivait à moi, est-ce que je serais capable aussi de pardonner? Et si je ne le suis pas, si je porte encore quelque part un refus de pardonner, est-ce que ça remet en cause l'authenticité de ma foi? Vous voyez, ce sont des questions auxquelles on est renvoyé directement lorsqu'on a ce genre d'action, d'exploit, on pourrait même dire, hein, parce que c'est violent, et pourtant, 11 jours après, elle arrive à le faire. Et donc, tout ça, ce sont des questions légitimes, parce que selon la douleur de nos expériences passées, eh bien, on peut encore avoir des luttes dans le domaine du pardon. Et lorsqu'on lit certains textes dans les évangiles, eh bien ça ne nous apaise pas vraiment. Et vous allez voir pourquoi. Moi, je dirais que même au contraire, ça va provoquer des doutes ou embrouiller notre compréhension du pardon. Et on va lire ces textes. Alors, je vous demande de prendre vos Bibles ce matin parce qu'elles ne seront pas forcément derrière, pour le coup. Elles vont peut-être apparaître, mais dans le doute... Je vous invite à prendre Luc chapitre 6 et ensuite on va lire deux textes dans Matthieu, un au chapitre 6 et un autre au chapitre 18. Juste quelques versets. Donc le verset 37 de Luc, et regardez ce que dit le texte, c'est la fin qui nous intéresse. « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. » Ok ? Conditionnel. Là, c'est « on sera pardonné si on a pardonné ». Encore plus explicite, Matthieu chapitre 6 et les versets 14 et 15. Voilà, donc c'est celui d'après qui va être projeté. Matthieu 6, voilà, celui-là. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ouh ! Là, les amis, c'est du sérieux. Troisième texte. Et Jésus va conclure une parabole sur laquelle on va revenir. Hein, mais je prends juste la partie qui nous intéresse là pour le moment, pour l'introduction. Et donc, c'est au verset 34 du chapitre 18. Si tu peux avancer. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Waouh ! Et là, encore un texte qui nous ébranle quelque part. Parce que si on n'arrive pas à pardonner, le texte est très clair, Dieu ne nous pardonnera pas. Et c'est ce qui a donné le titre de cette matinée. Puis-je être pardonné si je refuse de pardonner ? Donc vous voyez, je n'ai pas inventé ce concept-là, il est vraiment présent. Hein. Trois textes dans les évangiles, des contextes un petit peu différents, mais quand même, on dirait que le salut est conditionné par, ou il est conditionné à notre capacité à pardonner. Moi, je trouve ça très troublant quand même, très troublant. Et je sais que certains se mettent à trembler hein, lorsqu'ils lisent ces textes, parce qu'ils se disent, mais en fait, comme j'ai du mal à pardonner, comme j'ai encore parfois du ressentiment quand je croise mon bourreau, mon offenseur, est-ce que j'ai vraiment pardonné ? Et du coup, si j'ai pas vraiment pardonné, est-ce que Dieu va me pardonner, vous voyez ? Et donc là, on pourrait carrément remettre en cause notre salut. Et certains tremblent à cette idée-là. Et si c'est votre cas ce matin, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que vous n'avez pas de raison de trembler si vous avez reçu le pardon de Jésus. Et on va regarder de plus près justement ce qu'il en est. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans ce genre de situation, qu'on a ces versets qui sont assez violents quand même ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Premier réflexe ? Contexte. Contexte, contexte, toujours la même chose. Et oui, regardons ensemble le contexte parce que déjà ça va nous éclairer. À qui Jésus s'adresse ? Quand on a regardé le blasphème contre le Saint-Esprit, on s'adressait à qui ? Aux pharisiens. Est-ce qu'ils étaient croyants ? Non. Donc vous voyez, le blasphème contre le Saint-Esprit concerne en particulier les non-croyants et principalement les endurcis comme les pharisiens. Les gens qui voient des miracles devant leurs yeux, ok ? Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, notre contexte à nous est légèrement différent, vous allez le voir. Et donc là, je vais relever trois aspects du contexte, trois éléments qui sont essentiels, finalement, si on veut bien comprendre le texte. Le premier est le suivant. Matthieu 6, 14, le texte qu'on vient de lire, eh bien, c'est juste un commentaire de la prière qu'il a faite dans le Notre Père, hein, qu'on voit au verset 12. C'est juste un commentaire un petit peu plus poussé, un petit peu comme lorsqu'un prédicateur va reprendre une idée, mais enchérir, vous voyez ? On le voit dans les psaumes, hein, il reprend une idée et il va enchérir, et c'est ce qu'on fait dans une prédication, très classiquement. Ce que fait Jésus ici, c'est une prédication, c'est un sermon sur la montagne. Donc vous voyez, il est en train de prêcher et il va prendre cette idée, donc il enseigne. À qui il enseigne ? Quel est le public ? Ce sont des gens qui le suivent. Ce sont des disciples. Il leur apprend à prier, d'accord ? Donc si on apprend à prier, c'est qu'on est un disciple qui suit Jésus. On est d'accord ? Là, le contexte est assez clair. Parce que nous, on est juste deux versets plus loin, c'est tout. Hein, on n'a pas changé du tout le contexte. Donc, il s'adresse et regardez ce qu'il dit. Et vous le connaissez par cœur, si vous venez du milieu catholique ou dans certaines églises évangéliques même, on récite régulièrement ensemble, je ne vais pas vous demander de le faire, mais le Notre Père. Et dans le Notre Père, il y a un verset qui dit, le verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et donc, vous voyez, ça part du principe que « pardonne les autres comme moi j'ai pardonné les autres ». Donc, vous voyez, là aussi, il y a une sorte de condition, et Jésus la précise, au verset 14 et au verset 15. Donc, on s'adresse bien à un public de chrétiens. Et c'est confirmé, c'est le deuxième élément, c'est qu'il ne s'adresse pas à des non-convertis, il s'adresse à une foule, certes, mais ce n'est pas une foule de non-convertis. Ce sont des disciples qui le suivaient. Alors, bien sûr, là-dedans, hein, il y avait Judas. Okay ? Donc, il y aura des éléments pour Judas, mais là, on taille dans la masse. Hein, donc, on se dit, OK, c'est les gens qui me suivent, ce sont des disciples. Et c'est ce qu'on voit au verset 1 et 2 du chapitre 5, où il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et donc, il va enseigner des disciples. Et si on prend le texte parallèle, donc Luc chapitre 6, ça c'est le troisième élément, donc le texte parallèle de Luc 6, 37 confirme bien cette lecture parce qu'il se situe aussi dans un sermon adressé à ses disciples. Et si tu peux mettre le point 3, ah bah ça fonctionne maintenant, ok. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Et donc là aussi, il s'adresse, donc les pauvres en « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous », ça s'adresse aux disciples ici. C'est tout le discours qu'il a et qu'on voit dans le chapitre 5 de Matthieu. Donc on est vraiment, ça ne résout pas notre problème, mais au moins on a circonstancié la chose. Il ne s'agit pas des non-chrétiens. Donc là, on s'adresse à des disciples ou des gens qui suivent Jésus, mais qui n'ont peut-être pas encore reçu le pardon. Et vous allez voir, l'explication, elle va venir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Deuxième réflexe, quand on a regardé le contexte, quand on a un texte difficile, quel doit être notre réflexe juste après? Ben, quand on a un texte difficile, qui n'est pas clair ou qui est ambigu, eh bien, on va regarder d'autres textes qui sont plus clairs ailleurs, d'accord? Et on interprète les textes difficiles ou ambigus à la lumière des textes qui sont très clairs. Et s'il y a un sujet qui est très clair, mes amis, dans le Nouveau Testament, c'est le sujet du salut. On sait et on connaît parfaitement les conditions du salut. Et là, j'ai pris quelques textes, mais vraiment sporadiquement, parce qu'il y en a des dizaines. J'en ai pris 4 qui sont vraiment très clairs. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, est-ce que la question, c'était du départ, puis-je être pardonné si je refuse de pardonner? Donc, est-ce que ça sous-entend qu'on peut perdre le salut? C'est-à-dire que mon pardon serait une œuvre qui n'est pas accomplie quelque part, ou un péché. Donc, c'est je commets un péché en ne pardonnant pas, parce que Dieu me demande de pardonner. Et si je ne pardonne pas, est-ce que Dieu va me refuser le pardon? Vous voyez? Et donc, du coup, ça voudrait dire que je peux perdre le salut. Ok? Donc, ça, c'est une question qui fait trembler certains. Mais on va résoudre la question juste en étudiant ce qu'est le salut. Et quelles sont les conditions du salut? Ok? Vous êtes prêts? Allez, on aborde le problème de front. Donc la question, et c'est la problématique, est-ce que mon salut dépend de mon pardon? Alors regardons ce premier texte, Romains 3, 23-24. Je suis sûr que vous le connaissez parfaitement, on va s'y attarder un petit peu. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce » par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par quoi est conditionné le salut ici, dans ce texte? La grâce. Tout simplement. Il n'est pas conditionné par nous, il est conditionné par lui, par Jésus. La grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus et pas la nôtre. On est d'accord là-dessus? La grâce, c'est quelque chose qui vient d'extérieur, ça ne peut pas venir de nous. D'ailleurs, on va voir ce texte dans Éphésiens 2, juste après. Il dit « ça ne vient pas de nous ». C'est textuellement comme ça. Donc, la grâce est quelque chose d'extérieur. La grâce, ça veut dire quoi? C'est un cadeau, un don immérité, quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Okay? Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, hein, il ne mérite pas la plupart du temps. Hein. On fait des cadeaux aux enfants et on sait très bien qu'ils ont fait des bêtises. Hein. On n'est pas le Père Noël, hein. Mais on sait qu'ils ne sont pas parfaits, nos enfants. Même nous, on reçoit des cadeaux alors qu'on n'est pas parfait. Mais par contre, si moi, je voulais vous donner de l'argent en échange du cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire, ça s'appellerait pas un cadeau. Hein. Non, non, c'est un achat déguisé, vous voyez. C'est un échange. Ben non, la grâce, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est un cadeau et le texte le dit gratuit. Okay, on est gratuitement, donc il n'y a pas d'échange possible. Et là, en fait, Dieu ne nous sauve pas parce qu'on arrive à pardonner des criminels, hein, comme Erika Kirk. Ce n'est pas à cause de cet exploit-là, parce que moi je vois ça comme un exploit. pardonner après 11 jours et dire de front au criminel en le regardant dans les yeux, alors je ne sais pas si elle l'a vu dans les yeux, mais lui dire « je te pardonne », vous voyez, c'est violent. Est-ce que mon salut dépend de ça? Le texte dit absolument pas. C'est indépendant. Et en fait, si ça dépend de moi, effectivement, je peux le perdre. Mais si le salut dépend de la grâce de Dieu et de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix, qui est parfaite, il n'y a rien à faire de plus. Et c'est suffisant. Okay ? Il faut le croire, mes amis. Si vous pensez que la moindre petite œuvre peut contribuer à votre salut, alors effectivement, vous avez des raisons de trembler. Mais c'est parce que vous n'avez pas compris ce que la Bible dit sur le salut. Le salut, personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Maxwell, tu connais la pub ? Maxwell qualité filtre, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est ça en fait. On est sauvé et c'est pas la peine d'en rajouter. Parce que si tu veux en rajouter, c'est quelque part comme si tu donnais de l'argent à Dieu. Tiens, allez, je te donne quelques petites œuvres, mon pardon. Accepte-le Jésus, c'est mon pardon à moi. Il est quand même pas mal, hein ? Vous voyez ? Et puis Eric Hacker, qu'elle pourrait dire, waouh, hey, t'as vu Jésus ? J'ai pardonné, hein ? Ça peut contribuer à mon salut, hein ? J'espère que dans sa tête, à elle pense pas ça. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle a pas compris le salut. Et là, ça peut être un exploit humain. Mais honnêtement, vous pouvez faire tous les exploits de la planète, pardonner tous les criminels de l'humanité, si c'est simplement parce que vous pensez que c'est une œuvre pour votre salut. C'est niette. C'est que vous l'avez pas compris. Allez, je prends une petite image ici. J'aime bien les images. Imaginons que vous alliez au supermarché. D'accord ? Hein, tout le monde va au supermarché. Et puis là, il y a un ami à vous, un chrétien, qui est là, et il a une liasse de billets d'avion. Ok ? Une liasse de billets d'avion qui vont au ciel. Et il vous dit, écoute, Franck, est-ce que tu voudrais un billet pour aller au ciel ? Alors, moi je lui dis, bah ça dépend le prix. Il dit, bah écoute, ça coûte 100 millions, mais j'ai un code secret. Et avec ce code, quand tu passes à la caisse, ça sera gratuit. Waouh ! C'est bluffant. Et alors, bien sûr, on m'offre le ciel gratuitement pour aller dans la présence de Jésus. Qu'est-ce que vous feriez, vous, franchement ? Si c'est gratos. Bon, 100 millions, de toute façon, il n'y a pas grand monde ici qui pourrait le payer. Hein. Même si on s'y mettait tous, on n'aurait qu'un seul billet. Hein. Il faudrait faire un tarif de groupe. Et 100 millions, je doute qu'on y arrive aussi. Bref, imaginons que je passe à la caisse. La caissière me regarde, elle scanne mon billet et boum, apparaît 100 millions, vous voyez, comme ici là. Ça, c'est ce que je dois. C'est le coût du billet, ça dure longtemps, hein, et c'est long le voyage pour aller au ciel. Donc vous voyez, donc c'est un billet qui vaut très très cher. Mais elle me dit, attends, j'ai, et ici vous voyez le code, alors je ne sais pas si vous arrivez à le lire, là le code secret, c'est Jésus a payé pour moi. Ça, c'est le code secret. Et donc, elle vous dit, ah, moi, j'ai besoin de votre code. Hein, si vous avez un code promo, hein, vous savez comment ça marche. Il y a le tarif, et puis tout le monde a son petit code promo. Et là, j'ai mon code promo. Jésus a payé pour moi. Elle tape ce code-là, et bing ! Qu'est-ce qui apparaît ? Dette, zéro. Tu dois rien. Waouh ! Et là, tu peux passer. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. En fait, la dette, elle est énorme. Ça, c'est notre péché. Et Jésus la paye. Mais c'est définitif, vous voyez ? Et moi, même si je voulais rajouter, allez, 100 balles que j'ai dans ma poche, hein, à la caissière, j'ai pas le code, mais je lui dis, écoutez, on m'a donné le billet, c'est cool, hein ? Si je vous donne 100 balles, vous pensez que ça peut marcher ? Elle va dire quoi ? Ah bah ok, tu nous dois juste 99 999 000 euros. Bref, vous avez compris. C'est ça, en fait, ce qui nous reste. Quand on veut contribuer un tant soit peu à notre salut, même si on fait un exploit, à combien vous l'évaluez le pardon d'Erika Kirk ? Quel montant vous mettriez en face du pardon qu'elle a accordé à cet assassin ? Est-ce que c'est l'équivalent de ce que Jésus a payé pour tous vos péchés ? Et pas seulement les vôtres, mais ceux de tous les tous les chrétiens de la terre, en fait. Vous voyez, c'est ça. C'est arrivé à comparer ça. On va regarder trois autres textes. Donc ça, on a vu le salut, il est gratuit, offert par Jésus. C'est un don de Dieu. Romains, ça n'avance pas. Super, merci. Romains 3, 27. On va enchaîner les trois versets. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Vous voyez, on ne peut pas se glorifier. Eric Hacker, qu'elle ne peut pas se glorifier. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non ! Mais par la loi de la foi. Ça, c'est le moyen. C'est le fait de prendre le billet. Je prends le billet, je le fais par la foi, vous voyez. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Mais c'est toujours la grâce et la miséricorde de Dieu qui nous sauve. Et regardez, c'est beaucoup plus clair encore dans Tite, si tu peux avancer. Tite 3, versets 4 et 5. « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Ok ? Ça, c'est un passé. C'est pas « il nous sauvera », mais « il nous a sauvés », non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, un pardon accordé, mais selon quoi ? Sa miséricorde. Pourquoi ? Parce qu'on ne le mérite pas. On ne mérite pas. C'est pas à cause de nos œuvres de justice, même le plus grand des pardons, mais à cause de sa justice à lui et de sa miséricorde. Ok ? La grâce, c'est un cadeau qu'on nous offre. Dieu nous offre quelque chose qu'on ne mérite pas. La miséricorde, c'est que je mérite l'enfer, mais qu'il ne me donne pas l'enfer que je mérite. Vous voyez ? Ça, c'est la miséricorde. D'un côté, on nous offre quelque chose qu'on ne mérite pas. De l'autre, on ne nous donne pas ce qu'on mérite. Miséricorde et grâce, ça va ensemble. Ce n'est pas exactement la même chose, mais vous voyez, je les distingue de cette manière-là. Éphésiens 2,8, celui-là vous le connaissez par cœur, vous pourriez même le réciter mieux que moi. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Est-ce que c'est par le pardon que moi j'accorde aux autres ? Et il dit non, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par le pardon que tu peux accorder, tout aussi grand soit-il, que tu peux être sauvé. Pourquoi ? Parce que personne ne peut se glorifier. Erika Kirk ne peut pas se glorifier d'avoir pardonné l'assassin de son mari. Pourquoi ? Parce que ce texte le dit. Vous voyez ? Ça ne vient pas de nous. Le salut, il est offert par Dieu. Moi, je ne fais que le saisir. Donc, ce n'est pas parce que j'aurai pardonné ou pas que je serai sauvé. Ok, il faut que ça soit très clair. Est-ce que c'est clair pour vous ? Ok. Le salut, je vous donne ici une définition. Le salut par grâce, c'est un cadeau éternel, immérité, offert par Dieu, à saisir par la foi dans une attitude de repentance. Ok ? Donc, il y a bien une condition. Ok ? C'est l'attitude de repentance ici et la foi. Donc, c'est ça la condition du salut. Mais ce n'est pas nos œuvres. Ok ? C'est que Dieu l'offre, il a tout fait, tout est là. Moi, j'ai juste à le saisir par la foi. Et même cette foi-là, c'est Dieu qui me la donne. Cette capacité de dire oh, « Seigneur, je crois, je veux bien croire » parce que mon orgueil m'en prive, tout simplement. Le salut n'est jamais fondé sur nos œuvres, ni sur notre moralité, ni sur notre générosité, pas même sur notre capacité à pardonner. Notre salut repose uniquement sur la miséricorde de Dieu, la bonté et la grâce reçues par la foi seule. C'est clair ça ? Je répète, notre salut repose exclusivement sur la miséricorde, la bonté et la grâce de Dieu reçues par la foi seule. Ça, il faut le graver en fait, parce que quand on lit ce genre de texte, pas celui-là, hein, mais dans les évangiles, parfois, ça peut nous perturber. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a clarifié ces choses. Parce que Jésus, parfois, il allait, et puis ça, c'est des discours, on n'a que des petits bouts, hein. Si on avait eu tout le sermon, je pense qu'on aurait eu plus de pages. Mais on a des résumés. Bien souvent, ce sont des portions de sermon. Et donc, du coup, y a des raccourcis. Pour les Juifs, c'était très clair. Pour nous, qu'est-ce qu'il est en train de dire, là ? Alors, le pardon, finalement, qu'on accorde aux autres, après notre conversion, c'est une œuvre qui découle de notre salut. Okay ? C'est un fruit, c'est pas une racine, c'est une conséquence et non pas un moyen. Okay. Et alors, comment on peut concilier ça avec Matthieu 6, 14 et 15, qui semble dire l'inverse, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. D'accord ? Alors, qu'est-ce que Matthieu enseigne réellement ? Il enseigne quand même quelque chose de très sérieux, les amis, hein, mais c'est différent. En fait, il enseigne un refus persistant de pardonner, parce que finalement, ce refus persistant, c'est la preuve que je n'ai pas mesuré le pardon, que j'ai moi-même reçu, ou, pire, que je ne l'ai jamais réellement reçu. Un arbre qui porte jamais de fruits, ça veut dire qu'il n'est pas alimenté par la sève, et moi je rajoute, de l'esprit. Si c'est un arbre chrétien, il est alimenté par la sève de l'esprit, et donc s'il n'y a jamais de fruits, il faut se demander, est-ce que l'esprit coule dans cet homme ou cette femme? Quelqu'un qui, après des années, n'arriverait pas à pardonner une offense, même grave, démontre que la vie de Jésus, donc l'esprit, ne coule pas en lui. Et Jésus l'illustre par une parabole, juste après avoir enseigné le pardon ici. Et la parabole enseigne que le pardon est illimité. Regardez le contexte. On va regarder cette parabole, mais regardez le contexte. Pierre, l'apôtre Pierre, hein, c'est toujours celui qui parle en premier. Lui, il pensait qu'on pouvait pardonner jusqu'à 7 fois. Et ça, c'était déjà très généreux. 7 fois par jour. Hein. Vous avez compté déjà ? Mais lui, il pensait qu'on pouvait compter jusqu'à 7 fois par jour. Mais c'était beaucoup par rapport à ce qu'enseignaient les rabbins. Les pharisiens disaient qu'on pouvait pardonner jusqu'à 3 fois par jour. Donc lui, il dit, mais est-ce qu'on doit pardonner jusqu'à 7 fois? Et il dit ça à Jésus en disant, eh, nous on est des disciples de Jésus, quoi. Et est-ce qu'on doit aller jusqu'à 7 fois? Et là, c'est déjà pas mal, hein. Et Jésus le regarde et lui dit quoi? Ben non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ça fait combien ça? Allez, prenez vos calculettes. Ok. 490. 490, les amis. Ah oui, il fallait dire 70, hein. 70 fois 7 fois, excusez-moi. Merci les Suisses de me rappeler que je suis encore un Français, pas totalement converti à la Suisse. Désolé. En apprentissage, je suis un disciple, hein. Ça fait 480 fois. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette parabole? Est-ce qu'il faut que tu achètes un calepin suffisamment grand pour compter jusqu'à 490? C'est ça? Est-ce que vous devez faire ça? Et puis, à la 491e fois, alors là, mon ami, je te pardonne plus. C'est foutu! Sauf que c'est par jour, hein. Vous avez essayé de compter combien ça fait dans une journée de 24 heures? Alors prenez vos calculettes et faites-le, puis vous ramenez le chiffre. Ça fait quelques pardons à la minute, hein? À l'heure. Mais quand même. En fait, c'est pas ce qu'il faut retenir, c'est pas le chiffre, mais c'est pour dire que c'est illimité. S'il dit 70 fois 7 fois, voilà. On va pas le compter, justement, c'est parce que c'est un grand chiffre. Et donc, du coup, l'idée derrière, c'est qu'on doit toujours pardonner. Il n'y a pas de limite. Mais c'est pas pour l'autre, hein, le pardon. C'est principalement pour nous. Si on doit pardonner, c'est pour nous. Parce qu'on va s'emprisonner dans l'amertume, s'emprisonner dans la haine, s'emprisonner dans la colère. Et on verra dans la conclusion que c'est ce que n'a pas voulu faire Erika. Mais on va poursuivre ici, Matthieu chapitre 18. Regardez cette parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, en lui en amenant un qui devait 10 000 talents. On va revenir sur le montant, hein. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Waouh, ça fait beaucoup, hein. Vous êtes prêts à faire ça, vous? Une grosse dette et on le vend avec sa femme en esclave, hein. Il va être racheté. Et la suite, alors on s'arrête là. Alors 10 000 talents, ça dit pas grand chose en fait, hein. Vous savez comment ça fait? Vous avez eu des talents dans votre porte-monnaie? C'est un peu lourd. Hein. En fait, 10 000 talents, c'est en or. Ça pèse. En fait, 10 000 talents, on va les convertir. Alors déjà, il faut commencer par dire que ce que c'est que la journée de salaire d'un ouvrier. Un denier. OK ? C'est le salaire d'une journée de travail. Un talent, ça valait 6 000 deniers. OK ? Donc 10 000 talents, c'est l'équivalent de 60 millions de journées de travail. Beaucoup plus que ce que vous allez faire dans votre vie. Et donc avec un salaire, on va dire, moyen d'un ouvrier, un SMIC, et là il faudrait mettre l'image. Voilà. OK ? Donc, on va dire en France, c'est à peu près 1500 euros par mois. Ça, c'est le salaire d'un ouvrier. Et donc, si on le faisait en France, ça ferait, je vais le faire en euros, 4,5 milliards d'euros. Ça, c'est la dette. Les 10 000 talents, c'est ce que ça représente. Et en francs suisses, c'est 12 milliards de francs. OK, qui a ça en compte en banque ? Faut venir me voir à la fin du culte pour votre dîme, hein, c'est important. Mais on n'est pas légaliste, vous pouvez donner plus que la dîme, évidemment. Non, sans rire, c'est la somme que devait... Alors c'est une parabole, mais dans cette parabole, le maître c'est Dieu et l'ouvrier c'est nous et on a une dette vis-à-vis de Dieu, d'accord ? Et cette dette, elle est impayable, tout simplement. Qui est capable de sortir 12 milliards de francs comme ça ? Ça représente... on ne pourra jamais le faire, en fait. Et c'est là où il veut nous amener. C'est là où il veut nous amener. Tu ne pourras jamais payer ta dette. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il lui remet sa dette. Et lui, donc, qui avait une dette énorme... J'ai pas appuyé encore, c'était juste après. En fait... Moi, je vous pose la question, comment vous réagiriez, vous, si vous aviez une dette comme celle-là ? Franchement, bah, j'ai une grosse dette, donc vous allez travailler toute votre vie, vous allez essayer de mettre de l'argent de côté, vous allez faire du travail à côté de votre métier. Mais même si vous faites ça, jamais vous allez arriver à cette somme. C'est impossible. Et en fait, si vous demandez à votre banquier, auquel vous avez contracté un crédit, d'accord ? Donc ça, c'est la dette, vous avez un crédit, donc vous avez acheté une maison ou une voiture ou quoi que ce soit, vous avez un crédit, et du jour au lendemain, alors c'est un truc qui met des années à rembourser, vous allez voir votre banquier et vous lui dites, il vous appelle, il dit, écoutez, monsieur Segon, Franck, je t'appelle par ton prénom, c'est quand même plus sympa, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, ta dette, totalement remboursée. À votre avis, qu'est-ce que je ferais ? Un gros bisou. Je lui ferais un gros câlin, vraiment. Et puis, je pense que j'irai acheter du champagne et célébrerai ça avec mes frères et sœurs. Hein. Et j'aimerais vraiment le célébrer parce que ce serait, waouh, plus de dettes. Ce serait génial, n'est-ce pas ? C'est le réflexe normal de quelqu'un qui est endetté et à qui on remet sa dette. Parce qu'il sait ce que ça coûte, en fait. Vous voyez ? On le sait. Parce qu'on ne peut pas le rembourser si rapidement. Et donc, c'est ce qui se passe dans cette parabole. Et le problème, c'est que celui qui a été remboursé, qu'est-ce qu'il va faire derrière ? Lui, il y a un autre qui a une dette vis-à-vis de lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va le prendre par le callback et il va lui dire, t'as intérêt à me rendre mes 200 euros. Hein. Alors, c'est un peu plus que 200 euros, mais c'est quelques milliers de francs, vous voyez ? Par rapport aux milliards dont lui vient d'être pardonné, il vient réclamer, c'est un vrai dû. Et donc cette dette-là, c'est les offenses qu'on pourrait avoir. Hein ? Quelqu'un qui vous a pas dit bonjour, ou quelqu'un que vous avez froissé parce que vous avez fait une blague et qui s'est senti accusé. Enfin bref, toutes sortes d'offenses qu'on pourrait avoir, qui est une dette. Bon, ça peut être plus sérieux que ça, on est d'accord. Mais est-ce que c'est l'équivalent de la dette à laquelle nous, on a été pardonné ? C'est la dette de tous nos péchés, en fait, qu'il est en train de parler ici. Les 10 000 talents, ça représente tous les péchés cumulés, passés, présents et futurs. C'est pas mal quand même quand notre banquier nous dit « Toutes tes dettes, là, je les éponge. » Comme ça. On aimerait vraiment bien. et ça serait la joie. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et donc cet homme, là, dans, et là c'est ce qu'on va lire maintenant, versets 28 à 30, « Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez le maître qui a donné, qui a remboursé la dette à cet homme ? Qu'est-ce que vous feriez avec cet homme ? Eh bien, c'est la conclusion. C'est la conclusion et c'est ce qu'on va lire. Regardez ce que fait le maître. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Vous voyez, c'est logique. Il y a une logique ici. Et on poursuit juste après. Et son maître... Ça n'avance pas, c'est pas grave, je le lis. Et son maître, voilà. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et je vois, je pense que c'est là la clé de Matthieu 6, 14 à 15. Le refus de pardonner n'est pas ce qui nous fait perdre le salut, comme si le salut pouvait se perdre à cause d'un péché. On vient de voir que c'était pas le cas. Okay ? Le refus de pardonner est un péché. Alors certes, c'est un péché grave, mais il peut être passager. D'accord ? Ça peut arriver. On n'a pas envie de pardonner sur le moment, vous voyez, parce qu'on est vexé, parce que ça nous a fait mal. Et on peut ne pas être aussi rapide que, hein, elle a mis simplement quelques jours avant de dire, quelques heures, avant de pardonner à son bourreau. Ça, c'est exceptionnel. Mais voyez, on est tous différents ici. Par contre, si notre refus de pardonner s'installe dans notre vie, hein, que ça devient un vrai mode de vie par défaut, eh bien, ça révèle quelque chose. Soit qu'on n'a pas mesuré notre propre dette effacée, soit qu'on n'a jamais réellement reçu. Il y a ces deux possibilités. Et c'est le même principe que l'apôtre Jacques applique à la foi. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, Jacques 2, 26, il dit « De même que le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Jacques, il ne dit pas que les œuvres sauvent ici. Hein. Il dit qu'une foi qui ne produit jamais aucune œuvre n'a probablement jamais été une foi vivante. Elle est morte. Eh bien, le pardon, ça fonctionne exactement de la même manière. Il n'est pas la cause de mon salut, mais lorsqu'il est chroniquement absent, entêté, sans le moindre combat intérieur, eh bien, il devrait au moins nous pousser à vérifier si la foi censée le produire est bien vivante. Et ça doit nous remettre en question. Si on n'arrive pas à pardonner, les amis, il faut se poser la question, est-ce que ma foi est vivante ? Est-ce que, la première, c'est est-ce que j'ai pris conscience du salut offert, que moi, je mérite rien du tout, que ma dette, elle est tellement élevée que je ne pourrais jamais la rembourser ? Est-ce que j'ai pris conscience de ça ? Si ce n'est pas le cas, ben reviens ici, reviens à la source, parce que c'est vraiment ça dont tu as besoin. Et on va le voir dans un instant, il y a la durée aussi. Mais le pardon, c'est souvent un combat qui est parfois long et douloureux. Mais en tout cas, un cœur régénéré ne peut pas se complaindre durablement, sans aucun combat ni aucun remords, dans un refus délibéré de pardonner. Un chrétien, à un moment donné, ça doit pardonner. Vous voyez, c'est la marque du chrétien, la marque de l'esprit en nous, la marque de Jésus. Et d'ailleurs, on est encouragé à maintes reprises de pardonner les autres comme Christ nous a pardonné. Vous voyez, et la référence, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'exploit de Erika, c'est Jésus. C'est lui la référence suprême. En fait, comme le dit l'apôtre Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. 1 Jean 4, 20. On ne peut pas ne pas pardonner et dire « j'aime Dieu ». Ce n'est pas possible, ça ne va pas ensemble. C'est impossible. Le fruit finit toujours par révéler la racine. Donc si le fruit, comme ça, l'absence de fruit persiste, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose d'essentiel sur le salut. Et le pardon, c'est la base, les amis. Hein. Si on n'a pas compris l'essentiel de la vie chrétienne, et ça, c'est la base de la base, le pardon, eh bien, c'est que probablement on n'a pas compris qui était Jésus, ce qu'il avait fait pour nous. Alors, comment on peut appliquer ce texte? Alors, avant d'appliquer, j'aimerais juste rappeler quelques éléments du pardon que vous allez trouver ici dans un article d'un très bon livre qui s'appelle « Contradiction apparente » aux éditions Clé. Et c'est Aurélie Bricot qui en parle et elle fait un petit résumé. Je vous ai mis ici les gros titres. Mais voilà ce qu'elle avance, parce qu'il y a plusieurs manières de comprendre le pardon. Voilà ce qu'elle dit. Le pardon, c'est un commandement. Hein ? Pardonnez-vous les uns les autres. User de grâce réciproque, etc. Vous avez énormément de commandements dans le Nouveau Testament qui nous encouragent à pardonner, mais pas parce qu'on est mieux que les autres, pas parce qu'on a plus de force que les autres, mais c'est parce que Jésus nous a pardonné. On est capable de pardonner parce qu'un autre nous en donne la capacité de le faire, voyez. Mais par nous-mêmes, humainement, honnêtement, le pardon est impossible. Demandez à un non-croyant, si vous lui faites une crasse quelque part, donc vous contractez une dette. Est-ce que vous pensez qu'il va vous la remettre, la dette ? Gratuitement. Nous, on est capable de le faire parce qu'il y en a un qui a payé notre dette et qu'on sait ce que ça vaut. Vous voyez ? Mais un non-chrétien, il n'y a aucune raison qu'il vous donne. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, on couvre la dette. Hein. Le pardon, c'est couvrir le problème. Ou en tout cas, le remettre à quelqu'un d'autre, qui est plus grand. Vous voyez ? Il y a aussi cette attitude-là. Mais là, le pardon, c'est être prêt à dire, « Ok, il me doit 10 000. » Je lui demande rien. Il a vraiment fait quelque chose de grave, mais je choisis de ne pas lui réclamer parce que moi, j'ai déjà été pardonné. Vous voyez, je suis capable de le faire à cause... Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein, et ça ne veut pas dire que ça sera instantané. Il va falloir y réfléchir. En tout cas, le pardon, c'est un commandement. Le pardon est un acte d'amour pour Dieu. Parce que j'aime Dieu et que je veux l'honorer, alors j'offre mon pardon. C'est un cadeau quelque part, même si on ne peut pas le dire comme ça, c'est pas forcément... Enfin bref, le pardon, c'est une décision. Ça, c'est hyper important à comprendre. On fait un choix, et malgré les émotions qu'on peut ressentir, c'est un choix. On fait un choix. Même si on n'a pas envie, je fais le choix de dire stop, j'arrête, j'en veux plus. Ça ne m'appartient plus. Donc c'est une décision. Le pardon, ça coûte. Parce qu'on renonce volontairement à obtenir le paiement d'une dette qu'on pourrait ou qu'on est en droit d'exiger. On renonce, on dit ok, je renonce, donc je le pardonne, quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, je me délie quelque part de la personne. On va y revenir. Le pardon, c'est un acte de confiance. Pourquoi ? Bah parce qu'on laisse à Dieu le soin de juger. Quand on pardonne, c'est qu'on dit ok, Dieu... Je te remets ça à toi, qui est un juste juge et qui ne juge pas avec partialité comme moi, mais toi, tu es un vrai juge et donc je te le remets à lui. Honnêtement, quand vous faites ça, dites-vous que si vous auriez mal agi en rétribuant quelque part, eh bien Dieu, lui, ne va pas se tromper. Okay. Et ça, c'est rassurant pour nous. Parce qu'on peut aller plus loin. Je me souviens quand je me battais avec mon frère et souvent, ça montait en mayonnaise. Hein, c'est-à-dire que... une petite baffe, et donc l'autre lui remet une un petit peu plus grosse. Et puis la grosse baffe, ça devient un coup de poing. Et puis après, on finit avec les chaises. Voilà, c'est déjà arrivé, c'est du vécu. En fait, c'est comme ça. C'est quand on nous a blessés, on va blesser l'autre, mais on ne mesure pas, en fait. Et quand on remet à Dieu, eh bien, lui, on sait qu'il va rétribuer, justement. Et parfois, on ne peut pas rétribuer quelqu'un qui a eu un accident de voiture. Donc, un ivrogne, on va le dire comme ça, qui, quelque part, tue un des passagers de votre voiture. Mais lui meurt dans l'accident. Il ne pourra jamais vous rendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ni la personne qui était avec vous, si c'est votre enfant, il est décédé une fois pour toutes, et lui-même est décédé. Donc, vous voyez, on ne peut pas attendre à ce qu'il nous rétribue. Et c'est là où intervient le pardon, c'est que, eh bien, Seigneur, je le remets entre tes mains, parce que je ne peux même pas lui demander de payer, vous voyez ? C'est impossible. Et c'est pour ça que le pardon, là, dans ce sens-là, il doit être unilatéral. On ne doit pas réclamer parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de demander à l'autre de changer, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que ça vient de nous, c'est un vrai choix, et ça coûte, les amis. mais c'est un acte de confiance et ça nous libère. Quelque part, le pardon que l'on fait, c'est pas pour l'autre, c'est pour nous. Parce que quand on n'a pas pardonné, on est totalement lié à l'autre. Dès qu'il bouge le petit doigt, ça nous fait réagir. Hein, quand vous avez des gens qui vous ont fait du mal, s'ils parlent, s'ils font un geste, ça vous fait réagir immédiatement. En fait, vous êtes totalement lié à lui. Hein. Il y a une chaîne qui vous dit, dès qu'il bouge le bras, « Oh, toi, tu bouges avec !» Et en fait, le fait de pardonner, ça brise cette chaîne. Et donc, ça nous libère. Ça nous libère. On est plus lié à cette personne qui nous a fait du mal. Parce qu'on l'a remis à quelqu'un d'autre, qui, lui, va juger, justement. Pas comme ce que j'aurais fait en me vengeant et en essayant de... Hein. Moi, j'aime les films comme ça, où il y a des justiciers, où on rend justice. Hein, et si j'avais un gyrophare bleu, je le mettrais souvent quand je suis au volant de ma voiture. Je suis un justicier et j'irais péter tous les radars parce que des fois, c'est injuste. On roule à 2 km/h au-dessus et paf, on se prend un flash. Vous voyez ? Mais on aime la justice. J'ai jamais essayé d'enfreindre la loi. C'est simplement, bah, des fois, tu regardes pas ton compteur et puis paf, tu te prends, tu te dis, ah, oh, purée, j'ai encore engraissé l'État suisse. Je suis allé chez vous, Kevin, la semaine dernière avec la famille et je fais hyper gaffe en rentrant et tout. Puis on arrive dans un village, je devais être à 50, paf, un flash. J'étais trop content de la soirée que j'ai passée. Pas du flash. Est-ce que vous avez ces repères en tête? Donc, le pardon, c'est un commandement, c'est un acte d'amour pour Dieu, une décision, ça coûte, c'est un acte de confiance, ça libère, et c'est un don, c'est un cadeau que vous faites finalement. L'autre ne le mérite absolument pas. Quand on offre notre pardon à quelqu'un, l'autre ne le mérite pas. Ok? Alors, maintenant on va passer aux applications. J'ai énuméré ici 3-4 figures. 3-4, je ne sais plus. 3-4. 4 cas parce que depuis que je suis pasteur, bah, j'ai rencontré plein de situations variées. La première de cette situation, c'est vous avez pardonné et pourtant vous tremblez. Hein, on l'a vu au début de ce message. Vous avez fait dans votre cœur le choix de pardonner à quelqu'un et pourtant quand vous croisez cette personne, il y a un malaise qui persiste. Il y a une tension, une méfiance instinctive, vous avez un nœud dans l'estomac, ça peut vous rendre malade même. Hein. Et là, il y a le doute qui s'installe. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Est-ce que je fais partie de ceux que Dieu ne pardonnera pas? Hein. Parce que c'est les textes qu'on avait sous les yeux. Alors, je vous l'ai dit, je veux pas que vous sortiez de cette salle en doutant de votre salut. Si vous connaissez Jésus, d'accord? Souvenez-vous de ce que nous avons établi au départ. Jésus dénonce, et ce n'est pas un malaise passager, mais un refus persistant, entêté, sans le moindre combat intérieur. C'est quelqu'un qui dit « je ne veux pas pardonner », point barre, vous voyez? Et qui persiste là-dedans. C'est cela que ça concerne. Ce n'est pas les autres, d'accord? Si ce malaise vous pèse, si vous luttez, si vous priez encore pour cette personne malgré tout, eh bien, ce n'est pas le portrait du cœur endurci dont parle Jésus. Parce que la lutte veut dire que, justement, vous n'êtes pas endurci. Quand on se bataille avec quelque chose, c'est qu'on est en vie, les amis. Tant qu'un noyé, tant qu'on n'est pas mort par noyade, on se débat, vous voyez. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on fait ici, on se débat. D'ailleurs, je vais prendre une petite illustration pour vous faire comprendre. On raconte l'histoire d'un homme qui était parti se baigner en vacances, et vous savez qu'il y a des courants parfois. À l'océan, je sais que c'est assez fréquent. Et ça m'est arrivé cet été. On va nager avec mon épouse et puis on s'éloigne de quelques mètres de... Et le problème, c'est qu'il y a des courants qui nous emmènent au large. Et donc, eh bien, cet homme va dans l'eau et puis donc il fait sa petite balade et il va pour revenir et là, il nage à contre-courant. Le courant l'emmène à l'extérieur et lui veut nager à contre... Et il s'épuise. Il s'épuise. Mais... Comme il était à l'hôtel, il s'est souvenu qu'il y avait des petites annonces. Attention, ici, il y a des courants dans l'eau. Et donc, au lieu de lutter contre le courant, qu'est-ce que vous devez faire? Laissez-vous porter par le courant et attaquer, parce qu'à un moment donné, le courant va s'inverser. Donc, il faut longer la plage et non pas aller en face, vous voyez. Au lieu de faire un mouvement perpendiculaire, le courant va dans ce sens, vous faites un mouvement latéral, vous longez la plage, et à un moment donné, le courant va s'inverser et vous allez vous rapprocher. Et ça, s'il ne l'avait pas lu, eh bien, il aurait continué de lutter. Eh bien, c'est un petit peu ça, en fait, la vie chrétienne. Parfois, vous luttez contre quelque chose parce que vous essayez de lutter avec vos propres forces. Vous n'arrivez pas à pardonner parce que vous puisez dans votre propre capacité à pardonner. Vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas, en fait. Et c'est là où il faut se laisser porter par ce que Jésus a fait à la croix. Se souvenir que c'est lui qui a porté la chose. Donc vous vous laissez porter dans le courant, et là, à un moment donné, vous allez pouvoir le faire. Donc il y a un temps où il faut arrêter de lutter et se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Où en était ma dette, vous voyez, et se souvenir de ça, que notre dette a été effacée, eh bien ça change complètement. On arrête de lutter finalement parce qu'on remet ça à Dieu, tout simplement. Donc si ce matin vous repartez encore avec ce malaise, ne doutez pas de votre salut à cause de cela. Si vous êtes en lutte, laissez-vous porter. Doutez plutôt de vos propres forces et tournez-vous vers Jésus, qui lui seul peut vous donner un cœur nouveau et une capacité à aimer encore, même si on vous a fait du mal. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner cette capacité-là. On ne peut pas la puiser en nous. Donc vous voyez, il faut revenir à la croix, à ce que Jésus a fait pour nous. C'est la seule manière de faire. Donc ne tremblez plus, mais revenez à Jésus. Ok ? Deuxième cas de figure que j'ai rencontré, vous avez pardonné, mais la blessure, elle reste vive. Alors vous n'êtes pas dans le doute, vous savez que vous avez été pardonné, sans réserve, ok, vous avez bien étudié la question du salut, et vous ne remettez pas en question ça. Donc ce n'est pas ça la question. Mais il y a des séquelles qui sont là, et parfois quand vous recroisez une personne qui vous a fait du mal, eh bien ça vous fait réagir. Et parfois violemment. Et bien là, il faut se rappeler le troisième point qu'on a vu dans notre liste. Le pardon, c'est une décision avant d'être un sentiment. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous. Parce que ça signifie que notre pardon ne se mesure pas à l'absence d'émotion, mais à un choix qui est posé devant Dieu, une dette qu'on a remise entre ses mains. Ok ? Pardonner n'efface pas la mémoire. Hein ? Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande d'ailleurs. Pardonner, ça ne veut pas dire non plus faire confiance à l'autre, ni même disculper l'offenseur, ni nier ce qui s'est passé. Le péché de l'autre demeure le péché. Hein. Ça reste du péché. Et il peut même être parfois nécessaire de porter plainte, de dénoncer, pour protéger les autres. Vous voyez. Donc ce n'est pas ça le pardon. Hein. On n'est pas en train de disculper. On dénonce même le péché s'il faut le faire, si c'est grave. Attention, là, je ne suis pas en train de gérer toutes les petites broutilles qu'on a entre nous, hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. Mais là, c'est pour les choses graves. En fait, les séquelles, ce que vous ressentez quand vous voyez la personne que vous la croisez, eh bien, c'est une cicatrice. Et les cicatrices, c'est qu'il y a une guérison qui s'est opérée, mais les cicatrices, au début, hein, je ne sais pas si vous avez déjà blessé, ou si vous avez fait opérer, qu'il y a eu des points de suture, si vous touchez au début, juste après l'opération. Moi, j'en ai une, là, il n'y a pas si longtemps, dans le cou. Ça picote, hein. Des fois, il y a encore les fils, mais la cicatrice, pendant plusieurs semaines, elle va être très sensible. Dès qu'on va toucher, ça picote. Et avec le temps, ça s'efface. Donc, parfois, nos cicatrices, et alors, ça aussi, c'est un problème, c'est que c'est une séquelle, parfois fraîche, hein, si ça vient de se passer, mais si ça fait des années, c'est aussi parfois que vous frottez constamment dessus. Et en fait, vous restez dans cette fragilité quelque part. Vous remettez constamment le couvert, hein, et vous vous souvenez, etc. Vous n'avez pas fait le choix de pardonner, d'oublier quelque part. On fait le choix d'oublier, ce n'est pas qu'on oublie, mais on fait le choix d'oublier. Petit à petit, la cicatrice va s'atténuer, voire même disparaître. Il y aura toujours une petite trace, mais elle va quasiment disparaître. Et c'est peut-être simplement ça, en fait. C'est que vous avez réellement pardonné, mais qu'il y a une cicatrice qui est là et qui va devoir, avec le temps, s'atténuer. Donc évitez, si c'est frais, d'appuyer dessus à chaque fois. parce que là, ça ne va pas se guérir vraiment, ça va vous faire souffrir longuement. Vous savez, je me suis mis dans la tête de cette femme, j'imagine Erika Kirk. Je pense que chaque matin, elle pleure son mari. En fait, c'est pas qu'elle... Je pense que j'ai mis une image ici. Non, c'est pas là. Bref. C'est pas qu'elle n'a pas réellement pardonné, mais c'est que la cicatrice, elle est encore fraîche. Elle est très sensible. Et donc, si on porte ces séquelles, eh bien, il faut les partager à d'autres. Ne le gardez pas pour vous. Si vous souffrez, partagez avec d'autres. Et ils vont aussi vous faire penser à d'autres choses, parce que bien souvent on se focalise sur ce problème-là, et en fait on ne pense qu'à ça, voyez, et ça devient presque une idole. Et Dieu veut nous libérer de ça, mais la cicatrice elle est bien réelle, mais on a besoin des autres, de me dire, évite de toucher ça, tiens on va regarder autre chose. Ouais. On déporte notre attention sur autre chose, que parce qu'après on va se définir par notre problème, et on a des avantages à en tirer, toujours, c'est l'homme est tordu. Ah, j'ai beaucoup souffert. Ah, et on se flagelle parce que comme ça, les autres viennent nous aider, vous voyez. Ils viennent porter une attention particulière. Et on a un avantage secondaire parfois à rester dans ces situations-là, à dramatiser les choses et à dire « Ah, je suis vraiment pas heureux, tu te rends compte, tout ce que je vis, c'est la poisse, quoi. » L'homme est tordu. Oui, tu as une cicatrice. Oui, c'est moche. Oui, je vais t'aider à ne plus la toucher. D'accord ? Mais si constamment tu la caresses, c'est pas bon. Troisième cas que j'ai déjà rencontré, c'est que vous dites avoir pardonné, mais vous ne lâchez rien. Et vous en connaissez aussi des gens comme ça. Hein. Dans les faits, si on vous demandait si vous avez pardonné, vous avez dit oui, j'ai pardonné. Ok. Mais le nom de la personne, les circonstances dans lesquelles vous avez été blessé, ça revient dans toutes les conversations. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de 3 heures. Hein. En général, ce genre de personnage, ce chrétien, eh bien, dans les 2 minutes, dans les 30 secondes, vous savez qu'ils n'ont pas pardonné parce que ça revient constamment. Et tout de suite, en fait, c'est très frais. Vous voyez, alors, si ça vient juste d'arriver, ok, je peux comprendre, mais si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas passé, une pilule qui n'a pas été avalée. Ok ? Ça, c'est le signe d'une dette que l'on garde en réalité, sous une déclaration de pardon de façade. Le serviteur de la parabole avait oublié une chose essentielle, c'était la taille de sa propre dette. D'accord ? Lui, il pensait que on lui avait remis 500 deniers. Oui. Non, on t'a remis 10 000 talents. C'est énorme. Et il a oublié ça. Et il n'a pas su regarder son compagnon avec les yeux dont le roi l'a regardé lui, vous voyez. Et c'est ce que Dieu veut, en fait, quand il nous dit, vous devez pardonner comme Christ, c'est-à-dire qu'on doit prendre les yeux de Dieu et regarder, ok, avec les yeux. Comment t'as été pardonné, toi? Ok, tu veux pas pardonner l'autre. Tu te rappelles du montant de ta dette, vous voyez. On l'oublie, ça. On l'oublie. Et donc, il nous ramène à cela. En fait, c'est quand on n'a jamais regardé la facture en face. Hein, mettez-la en francs ou en euros, comme vous voulez, peu importe. 12 milliards de francs. Pas mal, hein? Ça, c'est ta dette, à toi. La mienne. Celle que on a tous, en fait. Benjamin Higgins disait dans une prédication sur ce sujet, « Tant qu'on garde les yeux fixés sur ce que l'autre nous doit, il est impossible de pardonner. » Il faut enlever ses œillères et regarder d'abord à ce que Dieu, lui, nous a pardonné. En fait, si on est focalisé sur le mal que l'autre nous a fait, on est en train de regarder la dette que l'autre, il a, voyez. On ne regarde pas la nôtre. Du coup, on est focalisé sur le problème. Et ça, ce n'est pas vraiment solutionnable. Donc, il faut qu'à un moment donné, on arrête de regarder le problème de l'autre et dire, ok, moi, le mien, il est là. Et je dois pardonner. Parce que toi, tu m'as pardonné à moi, alors je suis capable de le faire à lui. Vous voyez, ça passe par Jésus, en fait. Si c'est votre cas, cette semaine, que vous lâchez rien, moi, je vous invite à faire un petit exercice. Vous arrivez à la maison, hein, ce midi, si vous êtes chez vous, alors vous allez reprendre Colossiens chapitre 2 et les versets le verset 14. Et là, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Moi, je vous invite à prendre un calepin et à noter tous les péchés dont vous vous souvenez du passé, mais aussi du présent. Alors, pas ceux du futur, hein, parce que, ah, tiens, j'aimerais bien pécher dans ce domaine. Non, non, non. On va se limiter au passé et au présent. Des choses que vous avez du mal à gérer. Vous écrivez tout ça, ok? Vous faites une colonne, vous listez toutes ces choses. Et ensuite, vous allez faire une autre colonne et le montant à laquelle vous attribuez chaque péché. Ok? Et puis à la fin, vous tirez un trait, vous faites l'addition. Et puis après, vous prenez Colossiens 2,14. Ça, c'est les dispositions qui nous étaient contraires. Il y a une dette ici. Qu'est-ce que Jésus en a fait? Il l'a cloué à la croix. Définitivement. Définitivement cloué à la croix. Il n'y a plus rien qui nous condamne. Vous voyez, c'est ça le salut. Si on arrive à comprendre ça, c'est qu'on a pris conscience de notre dette. Et ça va nous aider à pardonner les autres. Si on ne le fait pas, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il y a des racines d'amertume qui vont s'installer dans notre vie et ça va ressortir partout. Et c'est horrible. Les racines d'amertume, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est un poison. Et ça grandit comme ça, on ne les voit pas. C'est des racines qui poussent, invisibles. Mais vous, vous empoisonnez vous-même et vous allez empoisonner toute la communauté. Des gens amers, les amis, il faut les aider, hein. C'est des gens blessés, souvent ils ont subi des choses graves, mais du coup, comme ils n'ont pas pardonné, eh bien ils vont devenir amers et cette amertume, elle ressort d'une manière ou d'une autre dans l'Église, dans les relations. Vous allez vous embrouiller avec eux, ça je peux vous assurer, il n'y en a pas pour longtemps. Et si c'est votre cas, les amis, mais revenez à Christ, revenez à Christ, réécrivez ces péchés, prenez conscience de la dette. Que cette dette-là que vous avez vis-à-vis de Dieu, elle a été pardonnée. Okay. Ça va vous aider à pardonner les autres et donc à guérir de votre amertume. Et le quatrième cas, c'est que vous voudriez pardonner, mais vous n'en avez pas la force. Eh bien, c'est probablement parce que vous ne connaissez pas Jésus. Vous savez, j'ai rencontré des chrétiens qui ont été vraiment floués, et plus que floués, violentés, qui ont subi des atrocités. Mais tant qu'ils n'ont pas pardonné, ils gardaient cette amertume, cette colère en eux, et ça ressortait d'une manière ou d'une autre. Mais le jour où on fait une petite séance ensemble, et on prend ce texte, et on fait ce calcul, hein, je dis, ok, tu vas écrire tous tes péchés à toi. Pas ceux forcément que tu as subis, mais déjà écris tous les tiens. Et puis ensuite, ok, à combien tu évalues celui que tu as subi? Si on fait la balance, si tu prends tous tes péchés depuis ta naissance, ouf, l'addition est très lourde, hein. Alors oui, tu as peut-être subi quelque chose de très grave. Mais vous voyez, la balance là, c'est qu'on revient à la réalité. Moi, Dieu, il m'a pardonné tout ça. Donc, remets-moi tout ça. Ça ne t'appartient pas, en fait. Et on le remet à Jésus. Et si on n'y arrive pas, c'est probablement que Jésus n'est pas en nous. Et ça, c'est une invitation à vous, ce matin, de faire la paix avec Dieu. Vous avez une dette vis-à-vis de Dieu. On a tous une dette. J'ai une dette. J'avais une dette. Pourquoi ? Je dis « j'avais une dette ». Parce que moi, je prends au sérieux ce que dit la Bible. Et quand il y a Colossiens qui dit « il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix ». Ça, ça s'adresse à des croyants d'une église à Colosse. Ça s'adresse aux croyants. Mais si vous n'êtes pas croyant, alors vous avez encore cette dette vis-à-vis de Dieu. On a tous une dette vis-à-vis de Dieu et elle est encore là. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à pardonner. Eh bien, moi, je vous invite à vous tourner vers le seul qui peut vous donner cette force. Vous ne pouvez pas fabriquer le pardon. Ça ne peut pas se fabriquer. Vous n'avez pas la capacité à produire le pardon avec vos propres forces. Le vrai pardon, il se reçoit d'abord avant de pouvoir se donner. Si vous n'avez pas été pardonné, vous serez incapable de pardonner les autres. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de Christ. Parce que vous allez pardonner d'une certaine manière. Si vous êtes altruiste, vous allez peut-être avoir une certaine capacité à pardonner, mais vous ne pourrez jamais pardonner complètement, parce que vous avez besoin de Christ. Vous savez, avec mon épouse, on a accompagné des gens qui avaient subi des atrocités. Eh bien, le jour où ces gens pardonnent, hein, c'est des gens amers, qui en veulent à toute la terre, puis nous, on les voit, on se dit, oh, le pauvre. Mais en même temps, il fait des dégâts. Donc, brebis qu'on sort du troupeau parce qu'il est en train de corrompre le troupeau, vous voyez, qu'il est en train de diffuser son poison. Et là, on discute, et en prêchant le pardon, et la personne, waouh, elle baisse les bras. Et sa vie change radicalement. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Si vous êtes en lutte avec quelque chose, ou une personne, ou une situation injuste, demandez à Jésus de vous donner cette force. Demandez surtout à Jésus de venir dans votre vie. Demandez au Saint-Esprit de venir transformer votre cœur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut inverser ces données-là. Mais il faut passer par la conversion. Il faut se tourner vers Christ. Et c'est le seul moyen. J'en ai pas d'autre, honnêtement. J'en ai pas d'autre. Vous savez, Erika Kirk, elle a mis 11 jours à faire ce choix de pardonner devant le monde entier. Moi, je trouve que ce délai, il est relativement court, hein, parce que c'est très, très violent ce qu'elle a vécu. C'est énorme. Elle n'a pas dit que ce qu'on lui avait fait était acceptable. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle n'a pas disculpé l'assassin de son mari. Elle a choisi de ne pas laisser la haine et l'amertume s'installer dans son cœur et de remettre cet homme entre les mains de la justice de Dieu et des hommes, entre autres. Le pardon, mes amis, il est libérateur pour celui qui a été offensé, pas pour celui qui a offensé. En pardonnant, on ne fait pas un cadeau à son agresseur, on brise la chaîne de la colère, de la haine, de l'amertume qui nous liait à notre agresseur. Et du coup, quand on a brisé cette chaîne, il n'y a plus de raison. Vous voyez, on est libre. Quelque part, il peut continuer ses méfaits. Alors si c'est dans l'église, vous le signalez et on viendra s'occuper de lui. Mais si c'est quelqu'un que vous recroisez régulièrement dans votre travail, vous ne pourrez pas agir comme ça. Mais vous serez au moins libre. Vous voyez, vous serez libre. Vous avez coupé la chaîne de la haine parce que vous avez remis à Dieu cette personne-là. Ce matin, Dieu vous offre cette possibilité, il vous tend la main, il vous donne ce billet pour le rejoindre au ciel. Vous vous souvenez du code? C'était quoi le code secret? Jésus a payé pour moi. Est-ce que vous allez prendre ce billet avec le code? Parce que c'est ça la solution. Jésus a payé pour moi. C'est la seule solution qui va vous libérer complètement de votre offenseur. Jésus a payé pour moi.